Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Et à 8h39, on est avec Carole Jugelet-Welling, CEO et fondatrice de June, Emmanuel Le Chypre, CEO de lui-même, et Benaouda Abdaïm, qu'on ne présente pas non plus sur ce plateau. Le débat, vous allez voir, va être vraiment enflammé ce matin. Il y a plein de sujets. On parlera des licenciements dans la tech américaine. Est-ce que ça peut venir dans la tech française? Mais on va commencer par, parce que c'est la nouvelle de la nuit, hein, par le départ définitif, hein, et confirmé de la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui était remplacée donc par Chris Hipkins cette nuit. Elle a expliqué pourquoi elle partait. Elle a expliqué parce qu'elle dit « J'en ai marre, c'est trop dur. J'ai l'honnêteté, le courage de dire que je pense que quelqu'un d'autre fera le job mieux que moi, que j'ai tout donné pendant 3 ans et que là, maintenant, j'ai envie de me marier, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. » Alors, on va commencer par vous, Carole. Est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce que c'est courageux ou est-ce que c'est une forme de grande démission appliquée au chef d'État?
Je pense que c'est courageux quand on a atteint son plafond de verre de le dire. Et je pense que honnêtement, il y a beaucoup de dirigeants qui devraient être capables de dire là, j'ai atteint le maximum de mes compétences et de mes capacités. Ça soulève un sujet qui, à mon sens, est beaucoup plus vaste, dont on parle, je pense, vraiment très peu. C'est la santé mentale des dirigeants. Puisque finalement, c'est quoi être dirigeant? Alors déjà, on est en France avec un climat social en ce moment qui est assez dense. Donc parfois, être dirigeant, c'est être un petit peu l'objet d'un certain nombre de critiques. On va avoir une vision parfois, le dirigeant, il gagne beaucoup d'argent et il travaille pas vraiment et il est moins au charbon que le mec qui vraiment lui bosse et dans le dur et a un salaire moins élevé. Mais au-delà de ça, c'est un goulot d'étranglement. Vous imaginez une pyramide et en fait, quand vous êtes dirigeant, en dessous de vous, il y a énormément de gens qui dépendent de vous, vous créez des emplois. Donc, en gros, au quotidien, vous avez cette pression-là de se dire je dois maintenir les emplois, je dois maintenir le bien-être de mes salariés. Et puis, au-dessus de vous, vous avez la pyramide inversée, les investisseurs, les banquiers, la pression financière, le marché, l'économie dans sa globalité. Et en fait, vous êtes seul au milieu. Donc, alors, quand vous êtes plusieurs fondateurs de boîtes, c'est à la rigueur facile, vous avez des gens avec qui en parler. Moi, je suis toute seule. J'ai monté ma boîte toute seule. Comment je fais? Alors, heureusement, on a d'autres patrons avec qui on peut s'exprimer. Je suis coachée, je suis mentorée. Mais c'est un vrai sujet parce que on est littéralement seul au milieu du goulot d'étranglement. Le travail, il est pas simple. On sort du Covid, de la crise, l'augmentation des matières premières, toutes ces choses-là qui sont des choses qui sont dures à porter. Et finalement, la santé mentale du dirigeant, j'ai envie de dire, ça intéresse pas forcément grand monde parce que ils ont un poste enviable. Ils ont qu'à serrer entre guillemets un petit peu les dents et c'est bon, ça passera. Mais il y a des gens, ils font ça depuis 10 ans, depuis 15 ans, quand on est patron de sa petite PME en province, que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, comment on va transmettre son entreprise. Je pense que la santé mentale du dirigeant à ce moment-là, elle en prend un coup et c'est un sujet dont on ne parle pas assez.
C'est intéressant, Benaouda, parce que Jacinda Ardern, elle a ouvert tout un pan de réflexion, alors aussi bien chez les dirigeants que chez les journalistes, même sur la manière de traiter ce départ. C'est très suivi par les médias anglo-saxons. Moi, j'ai CNN dans le retour. Je vois, ils sont en boucle sur le sujet du départ de la première ministre néo-zélandaise. Est-ce qu'elle part vraiment parce qu'elle a envie de s'occuper de ses enfants, de son mari, ou est-ce qu'elle annonce qu'en fait, elle n'est plus en capacité aussi bien de s'occuper de son pays?
Alors, je ne suis personne pour juger de ces... comment dire, de ses convictions personnelles de ce point de vue-là, si elle veut se marier ou s'occuper de ses enfants.
C'est elle qui dit ça. Hein.
Exactement. Donc, si elle le dit, c'est qu'elle le pense certainement, mais son plafond de verre, ce sont les sondages. En octobre, il va y avoir des élections. Il y a l'usure. Elle, vu comment ça se profile, le bloc de centre-droit va l'emporter haut la main. Et elle s'est dit, je vais me sacrifier très certainement pour pouvoir laisser mon parti l'emporter, tout simplement. Et ça s'applique à elle comme à n'importe quel chef d'État ou de gouvernement. Elle a été un chef de gouvernement très marquant par sa sobriété, par sa tenue, par sa capacité à faire face dans l'adversité. On se souvient peut-être en 2019 comment elle a porté la nation néo-zélandaise lorsqu'il y a eu une tuerie de masse suprémaciste dans 2 mosquées à Christchurch. Et puis, somme toute, elle répond à cette maxime du général de Gaulle dans son livre Vers l'armée de métier, l'action ce sont les hommes au milieu des circonstances, les femmes en l'occurrence. Et donc les circonstances veulent maintenant qu'elles doivent céder le pouvoir pour pouvoir tout simplement perdurer dans sa vie politique et de ne pas avoir coulé le parti travailliste. C'est aussi une justification.
Donc elle est très fine politique, finalement.
Ouais, c'est ça. Vous voyez plus une raison politique qu'une raison humaine, vous, Ben Aouda.
Et encore une fois, ça peut être la raison humaine, mais encore une fois, c'est une chef de gouvernement qui a duré 5 ans, pratiquement 5 ans et demi au pouvoir. C'est extrêmement rare de durer plus de 5 ans et demi, même y compris en France, des présidents de la République. Donc de ce point de vue-là, elle a démontré sa capacité à tenir politiquement dans l'adversité, sauf que elle est aussi l'expression de sa fatigue, c'est aussi à la façon dont on l'a entendu insulter le chef de l'opposition, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2-3 ans où elle se maîtrisait. Là, peut-être la fatigue fait qu'elle ne se maîtrise plus.
Et Emmanuel Chypre, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que ça a ouvert une autre boîte de Pandore, c'est celle de la différence presque d'honnêteté intellectuelle des femmes. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle a ce courage? Est-ce qu'un homme politique aurait le courage de dire c'est trop dur pour moi, j'ai atteint mon plafond de verre?
Il y en a plein qui l'ont fait. Non, je crois pas. Alors là, pour le coup, vous avez des tas de femmes qui se sont accrochées lamentablement au pouvoir ou qui ont voulu perdurer. Voilà, je sais pas quel est le point commun entre elle et Margaret Thatcher, quel est le point commun entre elle et Angela Merkel, etc. Donc non, je crois que c'est vraiment une question de conviction personnelle. Il y a aussi des grands hommes politiques français qui n'ont pas voulu faire de compromis, qui sont partis.
Jacques Delors.
Pierre Mendès France.
Oui, absolument. Donc non, c'est pas une question de sexe, pas du tout. Je pense que c'est quand même très compliqué quand vous êtes quelqu'un de normal de comprendre quel est l'intérêt de pratiquer ce genre de métier. Enfin, mais qui a envie de faire de la politique à part quelqu'un qui est dévoré par des ambitions personnelles considérables? Je ne peux pas croire qu'au bout de 3 ans que vous ayez fait de la politique, vous ne soyez animé que par la volonté d'imposer vos convictions, de faire le bien, etc. C'est pas possible. Donc il y a un moment où le fait de pas voir votre famille le week-end parce que vous allez couper des rubans dans une obscure sous-préfecture, etc., et que vous allez serrer les paluches des gens. Enfin, il y a un moment où je pense qu'il faut aussi. Donc moi, je n'ai pas de compassion particulière pour les hommes politiques qui ont choisi ce destin. Après, je pense qu'il y a quand même énormément de différences entre la vie d'homme, enfin le homme politique et chef d'entreprise. C'est-à-dire que, alors moi d'abord, je m'étais intéressé aussi à la santé mentale des chefs d'entreprise et j'avais été extrêmement déçu par le résultat de mon travail. C'est-à-dire que je pensais qu'il y avait un véritable sujet, que c'était un tabou dont on ne parlait pas. Or, toutes les enquêtes qui ont été faites montrent que finalement, les dirigeants d'entreprise, ils sont extrêmement heureux. Voilà, donc oui, c'est difficile.
Tu l'as fait quand ton étude?
Regarde.
Tu l'as fait avant ou
regarde,
après le Covid?
Regarde. Avant le Covid. Alors peut-être que le Covid, là encore, a changé. Mais regardez, quand vous êtes patron d'une grosse boîte, je veux dire, c'est quand même pas non plus, vous n'avez pas non plus une influence aussi gigantesque que ça. Quels sont les quelques dossiers que traite vraiment, par exemple, un patron du CAC 40? 98% des dossiers sont traités en dessous. Voilà, et donc, effectivement, alors il y a un sujet sur la solitude du dirigeant de PME, mais qui n'est absolument pas celle du dirigeant politique. Il y a un sujet sur, une fois que vous êtes à la tête de votre PME, vous pouvez pas dire, non, je me représente pas, j'y vais pas. Donc, c'est quand même des métiers extrêmement différents. Et je pense que la pression n'est pas du tout la même. Regardez d'ailleurs, encore une fois, la longévité en général des dirigeants politiques.
Donc, vous voyez, Emmanuel dit que c'est pas si dur que ça d'être.
Non, c'est pas ça. Moi, je dis que j'avais été extrêmement. Regardez, par exemple, je vous fournirais toutes les données des études qui avaient été faites, notamment par Malakoff-Médéric, etc. Moi, j'étais extrêmement surpris de voir que finalement, moi je m'attendais aussi à ce qu'il y ait un sujet encore une fois vraiment majeur, en disant on n'en parle pas, c'est un tabou, ils vont pas bien, etc. Eh ben non.
Parole.
Non, finalement, je suis pas d'accord avec toi, mais pour voir vraiment, faut jamais oublier, je viens d'Auvergne, j'ai une grande partie de ma famille qui est en Auvergne, donc des dirigeants de PME, Auvergnates, Vichy, Clermont-Ferrand, j'en ai plein. Pas que les gens qui font des startups un peu cool à Paris. On retrouve la même chose. Alors moi, ça fait pas 15 ans que je fais des startups, ça fait, 5-6 ans. C'est toujours... Évidemment, il y a un côté kiffant, mais c'est le poids de cette responsabilité et le fait de ne pas pouvoir s'en détacher. Un dirigeant d'entreprise ne peut pas dire « Attendez, là, je vais faire une petite pause, je vais m'arrêter 4, 5, 6 mois. » C'est pas possible. Quand on fait des burn-out, on fait des burn-out 3 jours, parce que si on fait des burn-out qui durent 6 mois, ça marche pas. On se fait dégager par des boards. C'est pas du tout le même, c'est pas du tout les mêmes circonstances. Donc, peut-être que quand t'as fait cette étude, je ne sais pas il y a combien d'années, les gens trouvaient ça beaucoup plus cool et beaucoup plus kiffant d'un dirigeant d'entreprise. Je peux t'assurer aujourd'hui au quotidien, évidemment il y a des choses chouettes et sympathiques, mais c'est qu'on est quand même dans le dur, quoi. La responsabilité de créer des emplois pour les autres, d'amener ce bien-être au travail pour les gens, c'est pas rien. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont finalement on parle peu.
Après, il y a différents profils de PME. Si tu veux, sur des études qui sont faites à l'échelle de la France, quand tu as un patron de PME qui est depuis 20 ans à la tête de sa boîte, donc il a de compte à rendre à personne, etc., ce qui est quand même là encore une grande majorité des petites boîtes françaises, voilà, c'est pas forcément le même cas de figure qu'effectivement quand tu as un board avec des actionnaires.
Et même, regarde le boulanger, pression, là, toutes les semaines, le boulanger est en train de nous dire qu'il galère à payer ses factures.
Absolument.
Et c'est pas la première fois qu'il le dit. C'est
un... Non, c'est vrai. Non, mais après,
en tout cas, ça c'est quand même une première ministre. Ministre à impact, hein, parce que quand même son rôle et l'ouverture des débats qui a provoqué cette démission est passionnante. Il faut qu'on parle d'un autre sujet. Je ne sais pas s'il est kiffant ou pas, Carole, mais c'est la tech. Là, justement, les enchaînements de licenciements dans la tech.
Une aubaine, c'est
cette tech qui va mal américaine pour les pépites françaises qui vont récupérer des talents, ou un ajustement qui va arriver finalement en escalier.
Bon, déjà, quand l'économie va mal, les startups tous, rien d'anormal. C'est normal dans une économie qui est en train de visser un peu qu'on ait des startups qui décident de licencier des gens. Ce qui se passe aux États-Unis ne se passe pas en France. Déjà, il faut quand même être clair. C'est les GAFAM, enfin les très 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 grosses boîtes américaines qui licencient massivement. Donc forcément, ça fait des gros effets d'annonce. En France, c'est pas le cas. On peut avoir éventuellement un ralentissement de l'embauche dans certaines boîtes qui avaient été très 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 gourmandes en recrutement parce qu'elles avaient levé beaucoup d'argent. Et en effet, alors je dirais pas que c'est une aubaine, parce que je peux pas dire ça. Vous avez des gens qui perdent leur job, on peut pas dire que c'est une aubaine. Par contre, comme il y a une énorme crise de talents, on galère tous pour recruter en ce moment dans toutes les startups françaises. C'est vrai que le fait qu'il y ait des talents qui soient remis à disposition sur le marché, c'est en effet quelque chose de positif. Mais il faut pas se leurrer. On n'aura pas en France des plans massifs de licenciements comme on peut voir aux États-Unis. Ça n'arrivera pas. Et puis voilà, on est dans un réajustement du marché. Il n'y a rien d'anormal et il n'y a rien d'inquiétant.
On va peut-être, Emmanuel, sur la tech et Microsoft, en fait, juste un mot quand même, parce que les résultats sont tombés hier soir, tout dégringole quand même. On voit que Windows, c'est quand même le produit phare, moins 39% quand même l'an dernier. On voit que la Xbox, les jeux vidéo, ça se vend moins bien. Pareil pour les surfaces, les tablettes. Finalement, on s'est dit, la crise, on va peut-être l'éviter. La crise, en tout cas sur ce secteur-là, on verra les résultats de Tesla ce soir. Mais il y a un ralentissement économique qui, au moins aux États-Unis, semble avéré, Emmanuel.
Oui, mais encore une fois, quand vous regardez l'ampleur des corrections par rapport à ce qu'on a vécu en 2000, où finalement, en gros, on avait eu des baisses qui avaient de cours, de valorisation, qui avaient atteint jusqu'à 50%. On n'est pas encore dans ce cas-là. Donc c'est pas anormal. Oui,
bon, c'est pas une crise. Il y a pas de quoi s'inquiéter.
Bah, si vous voulez, il y a un moment où vous changez de régime de vitesse. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que vous êtes plus dans la phase de croissance, que vous arrivez sur tous les sujets à des niveaux d'équipement qui sont quand même quasi complets, c'est plus tout à fait le même.
Une fois qu'on a acheté trois télés, on va pas acheter une quatrième.
Il y a la tech d'un côté, puis Benaouda, il y a les investissements verts de l'autre, avec la Banque Centrale Européenne qui muscle son programme d'action sur le changement climatique. Alors, elle va pas prendre des décisions d'investissement à la Banque Centrale Européenne, elle a juste des nouveaux indicateurs pour juger de l'exposition du secteur financier au risque climatique. Est-ce que c'est vraiment son rôle ?
En tout cas, ce n'est pas notre rôle, nous, en tant qu'observateurs et commentateurs, de persifler sans jeter au moins un œil sur ce qui a été dit, notamment lors du symposium à la Banque de Suède qui s'est déroulé le 10 janvier.
Là, vous ciblez Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos.
Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure, mais en tout état de cause, il faut voir ce qu'ils disent. Et Isabelle Schnabel, qui est la membre du directoire de la BCE, lors de ce symposium, qui était le premier panel de ce symposium qui était consacré à l'indépendance d'action de la Banque Centrale, avait exprimé une crainte, c'est que on impute à la hausse des taux, donc à la politique monétaire, l'impossibilité de refinancer les programmes d'énergie renouvelable.
C'est vrai, ça renchérit le coût des investissements quand même.
Eux disent, on prend pour bouc émissaire la banque centrale, quelle qu'elle soit, européenne ou ailleurs, plutôt que de s'en prendre au choix de politique budgétaire, des arbitrages de politique budgétaire. Donc ça, c'est la crainte des banquiers centraux, avec en parallèle d'autres système de politique monétaire comme la Banque centrale de Chine, toujours en marge de ce symposium, qui expliquait qu'ils avançaient main dans la main avec la politique budgétaire, avec le gouvernement. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a un hiatus au sein du G20 qui est en défaveur de la Banque centrale européenne.
Emmanuel, c'est le rôle de la BCE de flécher ou de montrer ce qu'il faut faire en matière d'investissement vert ?
Alors, je suis d'accord avec Ben Aouda sur il faut bien être d'accord sur quoi on parle. Si le rôle de la BCE dit on va effectivement encourager massivement les investissements verts, mais attention, c'est pas ça le sujet.
Non, elle en est pas là.
Christine Lagarde avait un peu dit ça la première fois.
Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'elle avait un peu dit ça et on se disait ça y est, la BCE. Ouais.
Là, on mesure en fait.
Voilà. Et là, c'est quand même un vrai sujet. Que de mesurer effectivement l'exposition du secteur financier au risque climatique, puisqu'il faut rappeler que la supervision bancaire et la sécurité du système financier fait partie des missions de la BCE.
Carole, en 10 secondes.
Je dirais il faut quand même faire un tout petit peu gaffe au greenwashing pour ne pas se dire va dire qu'on va verdir les investissements, puis en fait on va investir plus facilement dans des entreprises qui greenwash. Il y en a beaucoup, je vis dans une industrie très greenwashing, il faut quand même faire un petit peu attention à ça.
Merci à tous les trois.